Aujourd'hui, le héros des deux mondes, Lafayette. Je date la Révolution française du moment où Monsieur de Lafayette ouvrit aux jeunes guerriers de France l'école de la liberté américaine. Joseph Cerutti, 5 août 1789. D'histoire. Le 4 juillet 1917, quelques semaines après entrée en guerre des États-Unis, un groupe de soldats américains était venu au cimetière parisien de Picpus pour s'incliner devant la tombe d'un Français qui, 140 ans avant eux, avait lui aussi traversé l'Atlantique, mais en sens inverse. Lafayette, here we are, Lafayette, nous voici. Tout le monde connaît ces mots du colonel Stanton, qui ce jour-là rendait hommage à ce marquis de 20 ans, parti en Amérique en 1777 pour y participer à la guerre d'indépendance des États-Unis. Dès que j'ai entendu le nom de l'Amérique, je l'ai aimé, avait écrit Lafayette avant de quitter la France. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé de verser mon sang pour elle. Mais ce jeune Français qui rêvait d'en découdre ignorait qu'en offrant ses services au général Washington, on l'appellerait un jour en France et en Amérique le héros des deux mondes.
Soyez le bienvenu, monsieur de Lafayette. Mais vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils.
Comme beaucoup de vos soldats.
Non, oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous êtes Français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils.
On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur. Mais en se battant pour une grande cause.
Eh bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires brandebourgeois. Et vous, monsieur?
Un marquis français de 20 ans.
C'est juste. Et pourtant, je ne sais pourquoi. Et je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur. Et... Ah!
Monzac Saint-Brice, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier une biographie de Lafayette qui arrivait, on vient de l'entendre, en Amérique en 1777. Il y rencontrait Washington. Lui-même n'était pas encore connu, c'était pas encore le héros des deux mondes. Qu'est-ce qu'il était venu chercher en Amérique, aux États-Unis? Est-ce que c'était la défense de la cause de la liberté, comme il l'avait écrit, ou tout simplement la gloire?
Ni la gloire, ni l'argent, et peut-être quand même... la gloire met au service d'un idéal. C'est un garçon formidable que ce jeune marquis de Lafayette. Il est d'une grande famille. Ses ancêtres, un maréchal de Charles VII, une femme de lettres merveilleuse, l'auteur de La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette. Et puis, lui, c'est un garçon élevé à la campagne, en Auvergne, au pays des vaches rouges, au milieu des forêts pleines de loups. C'est vraiment un garçon rural qui se bat avec ses copains, qui va vivre dans les ravins. Et d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, il a un rêve de gloire qui est d'attraper la fameuse bête du Gévaudan.
Ah oui.
Qui est en train de dévaster le pays. Et il voudrait l'attraper, cette bête, avec ce long poil noir et blanc qu'elle a dans le dos. Et finalement, c'est finalement un tireur d'élite envoyé par le roi de Versailles, monsieur de Beauterme, qui va tuer la bête. Et on va jeter la dépouille de la bête sur le parquet de Versailles devant le roi de France.
Alors, bon, il cherche quand même un peu la gloire, il est officier, il ne la trouve pas dans la France de Louis XVI, il part en Amérique, il faut le rappeler, vous le faites, Gonzague Saint-Brice, il part seul, il cherche pas l'argent, c'est pas un mercenaire, mais il n'est pas non plus envoyé par Louis XVI. Non seulement d'ailleurs il part contre le gré du roi, mais même contre ce qui lui reste de famille, car il a perdu ses parents très jeunes. Autrement dit, vraiment, il force le destin.
C'est un rebelle, il est orphelin et milliardaire à l'âge de 14 ans. Il perd à la fois son père à la bataille de Minden, qui a reçu un boulet dans la poitrine, et un grand-père très radin et très dur, qui est le marquis de la Rivière et qui fait que ce jeune Lafayette devient milliardaire à 14 ans. Il est marié à 16 ans à la femme de sa vie parce que le monsieur de Noailles, qui est l'ami du roi Louis XV lui a dit tu devrais marier ta fille à ce garçon qui est si riche. Et cette femme va être extraordinaire pour lui, Adrienne, sa femme. Et puis, il est major général dans l'armée des États-Unis à 19 ans. Alors, comment ça s'est passé? Il passe par Versailles, il va au collège à Paris, il fait un petit tour à Versailles, il danse avec Marie-Antoinette, il lui marche sur le pied, elle est pas contente, ce grand rouquin. Et puis, il est dans l'armée et il est en garnison à Metz, aux Trois Évêchés, avec le maréchal de Broglie, qui reçoit ce soir-là à dîner le frère du roi d'Angleterre, le duc de Gloucester, le frère de George III. Et là, le frère dit du mal de son frère, qui veut être calife à la place du calife. Il dit aux Amériques, ça va très mal pour nous, il y a des colons qui se sont révoltés. Et là, il ça entend pour la première fois le nom de l'Amérique. Et vous avez raison de dire que là, sans prévenir personne, il va partir vers Bordeaux, il a fait acheter un bateau, il part vers Saint-Jean-de-Luz, Los Passares, et il dit carrément au capitaine du bateau qu'il a acquis avec sa propre fortune, vous ne ferez pas d'escale aux îles sous le vent, et c'est la grande traversée où il reçoit à la poupe du navire des poissons volants sur la figure en apprenant l'anglais.
Alors, il va se battre à ses frais, hein, il est assez riche pour cela, donc c'est pas un mercenaire, il devient l'ami de Washington. Hein, ce jeune major général français de l'armée américaine, il se distingue dans les premières batailles. Il va même jouer un rôle diplomatique essentiel. C'est lui, en revenant en France, qui va convaincre Louis XVI d'envoyer une véritable armée. Hein, ce sera Rochambeau, ce sera la flotte de Grasse qui, elle, va réaliser, va battre, va permettre aux Américains et Lafayette de battre les Anglais.
Oui, parce que il faut donc quand Lafayette débarque. Débarque de son bateau devant un parc à huîtres en Caroline, la première personne qui voit, l'être humain qui voit, c'est un noir. Il dit, j'ai vu un esclave au pays de la liberté. Il arrive au congrès de Philadelphie où on n'a pas tellement envie de lui donner les moyens. Et puis, il se fait reconnaître, il rencontre Washington, il se fait reconnaître comme maçon, c'est très important, ils sont tous les deux francs-maçons. Et à ce moment-là, au lieu de dire comme tous les aventuriers qui viennent d'Europe et qui disent à Washington, vous avez une armée de va-nu-pieds, moi je vous arrange ça, mais payez-moi, il dit, je paye mon régiment. Et effectivement, les Américains, au bout d'un certain temps, prévenus aussi par Silas Dean et par Benjamin Franklin, qui est sur les collines de Chaillot, ici à Paris, disent, mais attention, vous avez un mec considérable, s'il prenait parti pour nous, la France serait obligée de suivre. Il revient à Versailles et il convainc ce roi marin, qui est Louis XVI, qui met cette formidable armada de 100 navires avec les régiments d'élite de la France royale au service de la cause de la liberté.
Et ce sera la bataille et la victoire franco-américaine de Yorktown en 1781 qui permet donc aux 13 colonies anglaises de devenir indépendantes, de devenir les États-Unis, que quitte Lafayette pour revenir en France en 1785 après avoir fait ses adieux à George Washington.
Maintenant, monsieur le marquis, nous nous séparons. La victoire apporte aussi la séparation. Dieu vous a fait naître marquis. Mais chacun de nous se souviendra que la liberté est née française.
Mais c'est l'Amérique qui lui a appris à marcher. Sans vous, je serais resté un officier agitateur, un harangueur de taverne. Le Congrès a fait de moi un général, vous un soldat.
Vous nous reviendrez un jour, j'espère.
Oui, et peut-être en ambassadeur d'une France nouvelle.
Peut-être. Goodbye, my son.
Adieu.
Monsieur de Lafayette, j'ai fait une amulette pour que jamais devant vos ennemis une balle ne vienne vous ôter la vie. Et vous allez de bataille en bataille au milieu des éclats et de la mitraille. On a l'indépendance et merci à la France. Vous êtes un grand héros, à la France bravo. Mais vous devez la vie, farewell, mais vous devez la vie à une fille d'ici, farewell, à une fille d'ici.
Marie Laforêt, Monsieur de Lafayette, une chanson de 1977 pour le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Vous ne la connaissiez pas, hein, je crois, Gonzague Saint-Brice.
Non, mais j'admire beaucoup Marie Laforêt qui écrit de très beaux livres d'histoire.
Et une belle chanson, donc, sur Lafayette qui revient en France triomphalement. Il était parti inconnu ou presque et il est accueilli à bras ouverts et aussi comme, au fond, un peu le symbole de la liberté. On est à la veille de la Révolution française, Gonzague Saint-Brice.
Oui, et il faut savoir que qui a fait la Révolution française? Eh bien, disons la vérité, ce sont les jeunes aristocrates. C'est Lafayette qui a fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le vicomte de Noailles qui a voté l'abolition des privilèges. Et c'est Clermont-Tonnerre qui va se préoccuper de faire un statut pour les Juifs. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, toute la nouvelle génération des aristocrates sont des révolutionnaires. Ils sont pour une révolution propre. Et on peut dire qu'entre 1789 et 1790, tout est terminé, y compris la séparation des pouvoirs. Mais ça veut dire que si la révolution n'avait pas ensuite dérapé, eh bien, nous serions aujourd'hui, comme l'Angleterre, dans une monarchie constitutionnelle qui était désirée par tout le monde à l'époque.
Alors revenons, en 1789, il est député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux, il va y défendre plutôt le tiers-État, il est président de l'Assemblée nationale, c'est même lui qui est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme, il la propose dès le début du mois de juillet, je crois, et cette déclaration est tout simplement inspirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.
Oui, mais elle est aussi originale et typiquement française. Elle n'a pas, comme dans le rêve américain, la recherche de la poursuite du bonheur. Mais on doit reconnaître que effectivement, c'est bien Lafayette qui l'a inspirée. Et pourquoi est-ce que c'est une pop star, une vedette extraordinaire? Parce qu'au fond, c'est le Washington français. Et lui, son idéal, ça serait de transplanter cette révolution américaine dont il a vu les effets bénéfiques dans la France de ce temps.
Alors, une pop star est surtout une des figures essentielles des débuts de la Révolution française, puisqu'il prend une importance considérable immédiatement. Le lendemain de la prise de la Bastille, le 15 juillet, il devient commandant de la toute nouvelle garde nationale, à laquelle il fait porter trois couleurs, qui deviendront celles du drapeau français, et qu'il présente à Louis XVI à l'hôtel de ville de Paris le 17 juillet.
C'est Lafayette.
Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique?
Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis.
Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale et ils m'ont désigné comme leur général.
Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général.
Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie.
Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée.
Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets.
Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même.
Lafayette, au fond, c'est l'inventeur des trois couleurs du drapeau français, du drapeau tricolore, dans Aix-Saint-Brice.
Oui, c'est fou ce qu'on a oublié, ce qu'avait fait Monsieur de Lafayette pour la France et pour la France républicaine. Il aurait pu être d'ailleurs notre premier président de la République. Il préférait la popularité au pouvoir. Il avait ce goût de ce qu'il appelait lui-même le sourire de la multitude. Et Jefferson, qui fait son portrait, dit... Il a une fin canine pour la popularité. C'est un défaut. C'est pas quelqu'un qui désire se servir du pouvoir, ni le saisir lui-même. Il est au contraire à l'écoute du peuple et il est un révolutionnaire généreux.
Et puis alors, le personnage important, populaire il l'est, c'est comme ça qu'il est devenu chef général en chef de la garde nationale, personnage le plus important de la Révolution, en tout cas à ses débuts, avec Mirabeau. Mirabeau ne l'aimait pas du tout, hein, mais c'était les deux hommes, disons, en vue, en pointe à l'époque, en 1789-1790.
Oui, dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle « L'impossible duo ». C'est-à-dire qu'en fait, Louis XVI et Marie-Antoinette, quand ils ont vu arriver ce mouvement révolutionnaire, se sont dit « comment aller dans ce sens en le contrant ?» Et ils ont pensé à mettre ensemble les deux personnages qui auraient pu sauver la France de ce dérapage dans le sang, c'était Mirabeau et Lafayette. Or, Mirabeau avait un mépris total pour Lafayette, et Lafayette, qui avait la haine des magouilleurs, n'aurait jamais fait affaire avec Monsieur de Mirabeau. Monsieur de Mirabeau a été un des premiers à rentrer au Panthéon avec Condorcet.
Alors, Mirabeau, Lafayette, plus Lafayette que Mirabeau, rôle essentiel évidemment parce qu'il a la garde nationale avec lui, c'est à ce titre d'ailleurs, et il est plutôt mal vu, il va être plutôt mal vu par la reine, mais c'est lui qui va aller chercher, disons que le mouvement le dépasse, mais il va le récupérer lorsque les femmes de Paris vont à Versailles pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire la famille royale. Eh bien, il y a des échauffourées et il calme les choses en suggérant, en faisant venir le roi de Versailles à Paris. C'est lui qui va l'escorter en quelque sorte.
Oui, mais alors là, c'est important de savoir que cette marche des femmes sur Versailles est une organisation du cousin du roi, le duc d'Orléans, pour prendre la place du roi. Donc, on va faire une marche des femmes sur Versailles, comme ça les gardes françaises ne vont pas tirer sur des femmes. Et le duc d'Orléans a un conseiller, un type ténébreux, qui est Chaderlos de la Clos. Et là, on pense au futur. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, mais si les femmes disent, mais nous, si on arrive devant les fusils, non, on peut pas. Alors, Chaderlos de la Clos a l'idée géniale. On va mettre devant les femmes des hommes déguisés en femmes. Donc la marche des femmes sur Versailles est précédée par une bande de travelots qui arrive devant les grilles dorées du château de Versailles. Et alors effectivement, Lafayette, le général Morphée, il reçoit ce surnom, car il s'est endormi, il n'était pas là pour protéger le roi. Donc la foule arrive, et évidemment il fait ce geste élégant sur le balcon de la cour de marbre, de baiser la main de la reine, au moment où les tricoteuses vont l'insulter, ça s'arrange un peu et on ramène le roi à Paris.
Alors on ramène le roi à Paris. Il faut rappeler, d'ailleurs, c'est lui qui a introduit, on le rappelle, on l'a entendu, le blanc du drapeau tricolore, le blanc de la monarchie dans le drapeau tricolore. Vous disiez président de la République. Non, il est monarchiste, il est pour une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise en quelque sorte, Gonzague Saint-Brice. Il n'est pas encore vraiment républicain.
Plus tard. Il est pour une monarchie constitutionnelle, mais il est pour l'esprit de la liberté, et il est un pré-républicain. Disons qu'il est pour une monarchie constitutionnelle pour le moment.
Et pour une constitution et un roi auquel il prête serment le 14 juillet 1790, ce jour de la fête de la Fédération, premier anniversaire de la prise de la Bastille.
Mon cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe.
Mais pour combien de temps, mon cher?
Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Répétez après moi, je le jure.
Je le jure.
Réunissons-nous, le bon temps viendra. Le peuple français jadis acquis, l'aristocrate dit mea culpa. Le clergé regrette le bien qu'il a, par justice la nation l'aura, par le prudent la faillette, tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, réjouissons-nous, le bon temps viendra.
C'est un passage peu connu du « Ça ira », rendant hommage, on l'a entendu, au prudent Lafayette, dont la popularité à ce moment-là, on est en 1790, est à son zénith, Gonzague Saint-Brice.
Oui, je voudrais dire un tout petit mot sur « Ça ira ». Quand Monsieur Benjamin Franklin se promenait sur les collines de Passy, on lui dit « Alors, les insurgents américains, ça va comment ?»« Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Et c'est le début de la chanson. Puis après, elle change plusieurs fois. Oui, cette fête de la Fédération, c'est fabuleux. Enfin, on a l'impression d'une fraternité totale entre toutes les classes françaises, et l'incarnation de cette réussite, de cette réconciliation, c'est le marquis de Lafayette. Alors vraiment, là, c'est une pop star de l'histoire. On s'approche de son cheval, on veut embrasser ses bottes. Ça se passe vraiment comme ça. Et vraiment, tous les espoirs sont permis. Je voudrais dire d'ailleurs que le 14 juillet que nous célébrons chaque année,
c'est celui-là,
ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est l'anniversaire de cette fête de la Fédération, où comme dans les slogans des campagnes électorales, la France est enfin unie.
Et alors là, elle ne le sera plus longtemps, parce que la popularité de Lafayette va tomber, il va y avoir un an plus tard la fameuse fuite de Varennes, on va reprocher à Lafayette d'avoir laissé partir Louis XVI, ou même d'avoir travesti son départ, cette fuite, en l'appelant un enlèvement. Bref, il est de plus en plus mal vu. Un an après la fête de la Fédération, au même Champ de Mars, il fait tirer sur des révolutionnaires parisiens. Et alors là, c'est vraiment, il devient maintenant suspect et un traître, même aux yeux de beaucoup.
Oui, alors attends, cette histoire de la tirade de la
fusillade du Champ de Mars.
Fusillade du Champ de Mars. Il faut, moi, je peux vous dire qu'il s'est mis devant un canon pour qu'on ne tire pas au risque de sa vie. Et il est hors de propos de le tenir pour responsable devant le tribunal de l'histoire de débordement qu'à l'époque, aucune force humaine n'a été capable de juguler dans un esprit de justice.
Alors, il va finir par quitter la France en août 1792. Il est évidemment tout à fait hostile à l'arrestation de Louis XVI. Il pressent une république, en tout cas telle qu'elle va exister sous la terreur qu'il n'aime pas. Il s'en va et pendant 38 ans, il va vivre en exil, un peu oublié, en France. D'abord en prison, il quitte la France et c'est les Autrichiens qui, pendant 5 ans, vont l'emprisonner à Olmütz. Il n'a pas été accueilli du tout en héros parce qu'il avait quitté la Révolution. C'est aussi, des Autrichiens le considèrent comme un traître.
Dans quelles circonstances a-t-il quitté la France ? Il commande une armée à l'Est. On lui retire son commandement, d'accord. Donc il sait qu'il va être guillotiné, il n'a pas le goût du suicide. Il part sans déserter, véritablement, et il voudrait rejoindre un pays neutre. Et il est arrêté par les Prussiens, les Autrichiens, qui le mettent en prison à Olmütz, mais c'est pas de la rigolade. Hein. Quand sa femme, admirable, demande à venir le rejoindre dans les geôles avec ses filles, il la reconnaît même pas, et lui est comme un squelette. Il est vraiment, c'est des conditions d'hygiène.
Ça, c'est très peu connu.
Je voudrais pas mettre les points sur les i, mais ils sont à côté des chiottes. Ouais. C'est horrible, leur vie, là. Et donc, en fait, il est détesté par les royalistes, par les émigrés. Il est détesté aussi par les révolutionnaires, il est détesté par tout le monde.
Alors, il va être libéré grâce à les victoires de Bonaparte en Italie. Mais alors, on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il rentre en grâce. Pas du tout. Aussi bien pendant toute la durée de l'Empire que pendant les restaurations, quand Louis XVIII et Charles X reviennent au pouvoir, rétablissent la monarchie, eh bien, il va rester à l'écart.
C'est un héros propre. Il ne veut aucune compromission. Bonaparte est prêt à tout lui proposer, même un titre de connétable, d'être sénateur. Et les Bourbons, il sera toujours fidèle à son idéal de liberté. De toute façon, il a le temps pour lui. C'est un héros de 7 à 77 ans.
Un héros propre, Gonzague Saint-Brice, est oublié. Sauf en Amérique. Alors là, vous racontez un voyage qu'il fait. Il n'y est jamais revenu depuis 40 ans. Il va aux États-Unis en 1824. Alors là, c'est le triomphe.
Mais oui, parce que les enfants qui en ont entendu parler presque dans les livres d'histoire le voient arriver, lui, avec son secrétaire, son fils, qui s'appelle George Washington de Lafayette, qui s'est battu dans les armées de l'Empire, et Napoléon s'est arrangé, alors qu'il était dans la boucherie des Lots comme un héros, pour qu'il n'ait aucun grade et qu'il puisse pas monter en grade. Lafayette arrive et là-bas, dans ce pays, il est une légende et on le voit vivant. Et il y a quelqu'un qui, dans une des villes où il fait cette tournée prodigieuse, regarde ce héros avec les yeux qui sortent de la tête. C'est tout simplement, il a 15 ans à l'époque, un jeune romancier qui s'appelle Edgar Allan Poe.
Et tandis qu'en France, on l'a oublié jusqu'en 1830. Alors là, on va reparler de lui. On le retrouve sur le balcon de l'hôtel de ville pour remettre à Louis-Philippe le drapeau tricolore comme il avait fait 41 ans plus tôt avec Louis XVI.
Votre Altesse Royale soit à l'hôtel de ville avant 9h du matin. Et quand la place enfin soit noire de monde, M. de Lafayette apparaisse au balcon. Puis, qu'il s'écarte aussitôt et que le roi paraisse. Que ce soit vous, mon général, qui placiez le drapeau tricolore entre les mains du roi. Et pour accompagner ce geste qui plaira, je vous conseillerai, mon général, de prononcer quelques paroles historiques.
Historiques ?
Et que le mot République y figure. Général de Lafayette symbolise la République.
Nous avons marché pour cela, car nous avons
La Parisienne, la chanson de la Révolution de 1830 qui avait renversé Charles X pour le remplacer par Louis-Philippe. Là encore, voilà Lafayette qui joue un rôle essentiel. C'est lui qui, au fond, évite que cette révolution ne tourne mal en plaçant un roi bourgeois tricolore, puisqu'il lui donne le drapeau tricolore. Absolument. À la tête de la France.
Et il espère que, il dit, ça sera la meilleure de nos républiques, ce roi. Et quand ce roi ne fera plus le jeu de la liberté, il rentrera dans l'opposition. C'est aussi la naissance quand même en politique. Ce geste que vous venez de mettre en scène à la radio, il va envelopper le futur roi dans les couleurs tricolores. C'est la naissance de la société de spectacle et de la politique spectacle.
Et il a 73 ans en 1830. Il va mourir 4 ans plus tard, en 1834. Un destin tout à fait incroyable et qui a marqué très profondément, évidemment, les deux continents, le héros des deux mondes. D'abord, le continent américain. Il a laissé des traces, encore aujourd'hui, Lafayette.
Oui, 40 villes, 7 comtés, une montagne, porte le nom de Lafayette. Et c'est formidable de penser que si ce Français n'était pas venu, les Américains aujourd'hui seraient encore des Canadiens anglais.
Ils l'ont peut-être oublié. En tout cas, nous, on l'a pas oublié, parce qu'en France, alors je lis au début de votre livre, dans l'introduction de votre livre, Gonzague Saint-Brice, un sondage qui m'a stupéfait, car il indique que aujourd'hui encore, en France, aujourd'hui surtout, Lafayette est le plus populaire de tous les révolutionnaires français.
Si vous ne savez pas pour qui voter en 2007, 250 ans après la naissance du marquis libertaire, voter Lafayette, vous ferez comme 57% des Français qui sont favorables à Lafayette. Pour les Français, la Révolution française à 70% est fondatrice de notre pays nouveau. Mais les Français détestent maintenant la terreur et les glissements dans le sang. Et Marat se retrouve avec 3% des voix. Donc, je crois que le moment est venu, et pour la réconciliation entre la France et l'Amérique, et pour reconnaître le vrai rôle de Lafayette, que tous ensemble, nous portions ses cendres du cimetière de Picpus, où il est enterré, jusqu'au Panthéon, où il mérite de figurer.
Le Panthéon, il retrouverait d'ailleurs Mirabeau, où il aurait retrouvé Mirabeau et Condorcet. Est-ce que c'est pas aussi un symbole des relations, enfin des bonnes relations, quand elles ont existé entre les États-Unis et la France? C'est vrai, ce mot extraordinaire, on l'a attribué au général Pershing, qui commandait en chef les forces américaines, mais en fait c'était son aide-de-camp, le colonel Stanton, qui disait « Lafayette, nous voici ».
Absolument, et c'était formidable parce que à ce moment-là, les Américains n'étaient pas encore rentrés en guerre, et ce sont des volontaires aviateurs qui vont faire partie de cette escadrille Lafayette un an avant que l'Amérique vienne à notre secours. Vous savez, il y a un écrivain qui a dit peut-être le dernier mot, c'est Joseph Delteil. Je plains qui n'aurait pas 50% de fayettisme dans son cœur.
En tout cas, on l'est en vous lisant, Gonzague Saint-Brice. Pour en savoir plus, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre. Il est passionnant, il est merveilleusement écrit, il a beaucoup de succès, je le sais. Lafayette, donc publié aux éditions Télémac. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Révolution française, Les années Lumière de Robert Henrico, aux éditions Ariane Vidéo, Le Diable boiteux de Sacha Guitry, et enfin, d'ailleurs c'est ce qu'on a entendu au début, Le Lafayette de Jean Dréville, aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Julien Chevassu et Cédric Lalanne. Documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.